Bienvenue à la troisième édition du congrès virtuel francophone de l'été. Je suis Marianne, votre hôtesse ce soir, et avant de commencer, je voudrais vous avertir qu'en écoutant cette conférence ou son enregistrement, vous acceptez d'être responsable de votre bien-être personnel. L'EFT est un outil à la fois simple et très puissant, dont les résultats varient naturellement d'une personne à l'autre. Les témoignages avancés lors de cette conférence ne constituent pas une garantie que vous aurez les mêmes résultats pour vous. Consultez toujours votre médecin traitant ou un spécialiste en cas de problème médical dans son domaine de compétences. Ce soir, nous sommes ensemble pour une conférence intitulée « Retour en l'état de confiance ». Mais qu'est-ce que la confiance au juste ? N'y a-t-il pas un manque de confiance caché derrière tous nos mots ? À quoi servent les émotions qui nous submergent par moments ? Qui pilote vraiment notre vie ? Et comment serait notre vie si nous étions connectés à cette confiance ? Et comment y parvenir ? Notre conférencière ce soir a pratiqué longtemps la médecine chinoise et en rencontrant l'EFT, elle a pu enfin comprendre et répondre à ces questions. Elle va nous montrer comment l'EFT peut être la technique idéale pour parvenir à vivre la confiance en soi et en la vie. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'accueillir Agnès Popper. Bienvenue Agnès.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour Maria, bonjour à tous ceux qui nous écoutent pendant ce moment. Merci Maria pour ce joli congrès et toute l'énergie que l'équipe et toi vous y avez mis depuis des mois. Merci beaucoup. Merci à Gary Craig aussi pour avoir inventé cette jolie technique. Et merci à chacun d'avoir choisi d'être là avec nous maintenant.
Oui, merci à tous ceux qui nous écoutent. Alors Agnès, pourquoi ce sujet retour à la confiance ?
Alors quand tu m'as proposé de faire une conférence, Maria, j'ai tout de suite pensé que j'allais parler de la confiance. Dans ma pratique, je me suis rendu compte que toutes les personnes qui venaient, venaient pour la même chose, être bien maintenant. Mais la demande n'est pas formulée comme ça. Généralement, on va consulter un thérapeute parce que notre vie n'est pas confortable. On se dit qu'on voudrait maigrir, on n'y arrive pas. Si je perdais 5 kilos, je pourrais enfin m'accepter et être bien. Qu'on voudrait trouver l'amour, mais on manque de confiance. Si j'avais quelqu'un, je pourrais être bien. J'ai mal au dos. Si j'avais plus mal au dos, je pourrais être bien. Je dors pas. Si j'étais pas insomniaque, je pourrais être bien. L'idée est donc, j'ai un problème. Si je le résous, alors je peux me sentir bien. Notre bien-être dépend donc de la résolution d'un problème, parfois même d'un élément extérieur. Si je gagnais plus d'argent, si quelqu'un m'aimait, si j'avais plus de culture. Notre équation du bonheur est donc, quand j'aurai résolu tel problème, je serai heureux, et alors seulement je pourrai avoir confiance en moi. Pour moi, cette équation est à l'envers, et ça n'a rien de nouveau. Sénèque nous l'énonçait déjà au 4e siècle avant Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles, disait-il, que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Mais aussi Sir Winston Churchill qui disait « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. » Pour arriver à Wayne Dyer, auteur contemporain de développement personnel américain, qui nous dit « Lorsque vous modifiez la façon dont vous regardez les choses que vous regardez changent. » Et bien sûr, dans toutes les conférences qui m'ont précédé, la clé est bien souvent l'inversion. Je pense que c'est d'ailleurs tout à fait ce que nous a montré Marie-Odile Bruce hier dans sa conférence sur l'identité. Si on décortique un peu tout ça, n'est-ce pas la clé du secret ? La clé est en nous. Nous n'attirons pas ce que l'on demande, mais ce que l'on vibre. Ainsi, si nous changeons notre attitude, notre filtre, notre vibration, tout devient facile et nous sommes à notre place partout. Notre bien-être n'est plus subordonné au futur et à la résolution d'un problème. Notre bien-être est subordonné à notre connexion interne, connexion à notre confiance en nous et en la vie. Une fois cette connexion retrouvée, nous vibrons cette confiance en la vibrant. Le monde ne change pas, mais notre regard et notre perception de celui-ci changent et nous pouvons enfin être bien partout. Mon propos va donc être de vous montrer ce qu'est cette confiance et comment lui permettre d'être là grâce à l'EFT.
Alors justement, c'est quoi cette confiance et pourquoi tu parles d'un retour ?
Alors, la confiance vient du mot con, ensemble, et fidérer, se fier, croire. C'est un sentiment de pleine sécurité que l'on choisit de poser en quelque chose ou en quelqu'un. La sécurité est l'opposé de la peur. Avoir confiance, c'est être en sécurité, ne pas avoir peur. Si on a peur, on est tendu, crispé. Si on a confiance, on peut se détendre. C'est un état, elle ne se pense pas, mais elle se ressent. Notre confiance ne dépend pas du monde extérieur ni de nos pensées. Elle est toujours là, toujours présente, toujours accessible. C'est un ressenti profond de détente et de retour en soi, de retour à la maison, de pleine conscience du moment présent. C'est notre essence. Nous ne pouvons pas la perdre et il n'y a pas à vouloir la garder.
Mais alors, qu'est-ce qui empêche, puisqu'on parle de manque de confiance, qu'est-ce qui empêche cette essence d'être et de s'exprimer? Qu'est-ce qui nous coupe de ce ressenti?
Alors, ce qui nous coupe de ce ressenti, c'est notre mental. Comprenons-nous bien, notre mental est un super outil puissant et rapide. Son rôle est de nous délester des choses intellectuelles et matérielles. Il est parfait pour faire notre compta.
Yes!
Changer
un... Je cherchais quelqu'un, justement.
Ça, il est top. Changer un pneu, pas de problème. Comprendre un livre. Et sans lui, il n'y aurait pas de fusée dans l'espace. Notre mental est un super ordinateur qui cherche à résoudre des problèmes. Demandez à un ordinateur l'équation du bonheur, il moulinera longtemps. Notre mental est pareil, il cherche le bien-être au mauvais endroit, souvent à l'extérieur et demain, l'amour de l'autre, la réussite d'un examen, une perte de poids, plus d'argent, et avec les mauvais outils. En effet, il est géré à 90% du temps par notre inconscient, ce qui est une bonne chose quand nous conduisons, par exemple. Parce que notre inconscient sera plus efficace et plus rapide que notre conscient. Le problème, c'est que cet inconscient distille en même temps les vieux programmes qu'il a téléchargés pendant sa construction, entre 0 et 6 ans. Tu es nul, tu n'y arriveras jamais, tu ne mérites pas. Les parties de nous qui réagissent sont des parties blessées à pleurer du passé. Ou plus exactement, nous nous sommes mis en pilotage automatique. Notre mental utilise donc les vieux programmes du passé pour nous gâcher notre futur en oubliant le présent. Et pour tout ça et pour plus de détails, je vous renvoie à la lecture de Bruce Lipton, La biologie des croyances, ou plus simplement dans le livre de Sophie Merle, Je commande. Nous pouvons cependant, et c'est ce que nous allons voir, utiliser ce mental, notre mental, pour accéder à notre état de confiance, en passant du moi névrotique au soi apaisé, de l'ego à l'essence, comme l'est décrit Thierry Janssen, ancien chirurgien devenu psychothérapeute. En écopant ce qui empêche notre confiance de s'exprimer et en vivant enfin le moment présent.
Mais ça fait envie, mais comment on s'y prend? Comment faire ça?
Alors, pour vous expliquer plus simplement, je vais prendre l'analogie au surf. Ça fonctionne aussi avec l'apprentissage d'un instrument, la danse, la marche en montagne, mais je vais prendre le surf. Le surfeur breton, hein, pas le surfeur à Tahiti. Pour avoir l'image, il faut penser au surfeur breton,
oui.
Avec une mer bien froide. Le surfeur a l'intuition du bonheur de la glisse. C'est ce qui lui fait décider de se jeter à l'eau, de ramer à contre-courant. Il fait donc le choix de se mettre à l'eau, et pour cela, il donne un sens à son expérience. Et ensuite, il choisit aussi de ramer à contre-courant et de ne pas laisser la vague le ramener à la rive. Pour enfin passer derrière la barre et se trouver dans un endroit plus calme où il peut se poser, observer la mer et accueillir la vague qu'il va surfer, en expérimentant alors la joie d'être en unité avec la nature. Mon hypothèse est que nous avons toujours le choix entre la peur et la confiance. Rester sur la rive et regarder les autres surfer, notre habitude de la peur, ou alors glisser avec la vie, permettre à la confiance d'être. C'est l'intuition de cette confiance qui nous pousse à entreprendre un travail intérieur, qui pour moi s'articule autour de deux grands axes. Premièrement, le choix de se jeter à l'eau, donner un sens à son expérience. Et deuxièmement, le choix de ramer à contre-courant, utiliser nos émotions pour écoper ce qui nous coupe de notre essence.
D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément ce que tu entends par se jeter à l'eau? Et pourquoi on ferait une chose pareille? Surtout si tu me parles de la mer Bretonne.
Ah justement, le surfeur se jette pas à l'eau comme ça juste pour avoir froid. Il n'est pas juste masochiste. Hein. Il pressent le plaisir qui l'attend. Son expérience a un sens. Nous avons également l'intuition de cet état de confiance que nous ressentons par moments en nous. Nous savons intimement que notre sécurité ne peut pas dépendre du monde extérieur, mais qu'elle se trouve à l'intérieur de nous. Pour retrouver notre confiance, se fier à nous-mêmes, se sentir en sécurité en nous-mêmes, nous avons besoin de nous fier au sens que nous donnons à notre passage sur Terre. Trouver des croyances qui nous sécurisent, c'est un choix. Avoir confiance, c'est un choix. Nous choisissons à quoi ou à qui nous voulons nous fier, nous ne le subissons pas. Nous choisissons de poser des fondations solides. Notre seule certitude en arrivant sur cette planète, c'est que cette expérience aura une fin. Cette fin est la peur ultime, elle peut même nous empêcher de vivre. Elle est parfois cachée derrière des peurs plus légères, mais elle est toujours là, toujours présente. Pour la calmer, une des solutions est de choisir un sens à notre passage sur Terre, un sens qui nous convienne et nous permette de faire confiance à la vie. C'est exactement le message de Viktor Frankl, ce neurologue et psychiatre viennois qui, à 15 ans déjà, écrivait des lettres à Freud. À l'opposé de Freud, qui parle du désir, et de Adler, qui prône le pouvoir, Frankl insiste sur l'importance du sens à donner au vide existentiel, face au vide existentiel, en créant ainsi la logothérapie. Juif et déporté dans des camps de concentration avec sa femme et toute sa famille, il a approfondi sa théorie dans les camps en remarquant que face à l'absurde, les plus fragiles avaient développé une vie intérieure qui leur laissait une place pour garder l'espoir et questionner le sens. Les plus forts physiquement partaient bien souvent plus vite. Sans imposer ses pensées à lui, il se définissait comme quelqu'un qui aidait les autres à trouver le sens de leur vie. Cette étape, pour moi, est fondamentale, car si nous croyons que la vie est absurde et sans aucun sens, alors à quoi bon changer, avancer et surtout comment vivre dans la terreur de la mort? Nous vivons une époque formidable où nous avons accès à toutes les informations possibles en un clic. Des hommes et des femmes ont passé toute leur vie à se questionner sur le sens de la vie. On peut bien passer un peu de temps à faire notre shopping. J'invite donc toutes les personnes qui viennent me voir en séance à commencer ce travail ensemble. Pendant la séance de EFT, en fait, je vais leur poser des questions un peu existentielles sur le sens qu'ils donnent à leur vie, à leur mort, à la mort de leurs proches, à leur passage sur Terre, mais aussi et surtout à continuer cette recherche chez elles. J'invite aussi tous ceux qui nous écoutent maintenant, si ce n'est pas déjà fait, à commencer cette recherche passionnante. C'est un vrai travail de choix. L'indication qu'une croyance est positive pour nous, c'est le sentiment de détente qu'elle nous procure, un vrai sentiment de reconnaissance. On me demande souvent « oui, mais si je me trompais et si c'était pas vrai ?» Pour moi, ce qui compte, c'est de choisir des croyances qui nous aident à donner un sens à notre expérience et à passer de la peur à la confiance. Ce sera bien temps de changer d'avis après notre mort, quand nous aurons toutes les réponses. En attendant, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à perdre? Comme disait Oscar Wilde, il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Je pense que Louise Gervais, dans son intervention sur l'EFT et la spiritualité, nous en dira certainement encore plus.
Bien sûr. Et au cas où on se tromperait, on peut toujours changer de croyance.
Exactement.
Justement. Exactement. C'est ce qu'on va apprendre ensemble ce soir. Alors, soit on trouve un sens à notre vie, on se jette à l'eau comme les surfeurs, mais comment ramer vers la vague? Explique-nous comment nos émotions peuvent nous aider à ramer.
Alors ça, pour le surfeur, c'est la partie la moins agréable. Il s'est jeté à l'eau, il a eu un peu froid, d'accord. Mais là, pour lui, il a quand même la tête la première et il rame vers la vague et la vague, là, le ramène vers la rive. Donc, il nage à contre-courant. Cette phase, pour nous, consiste à utiliser nos émotions comme des outils. L'idée, c'est d'abord de redevenir conscient, parce qu'on a vu qu'on était en pilote automatique, et d'utiliser chacune de nos émotions, chaque événement qui vient nous alerter, pour écoper ce qui nous sépare de nous-mêmes et qui nous empêche d'être confiants et heureux maintenant. Une émotion, c'est un radar qui nous alerte de quelque chose afin de mobiliser l'énergie nécessaire pour réagir. Or, tant que nous sommes en pilotage automatique géré par notre inconscient, ce qui réagit, c'est la partie de nous blessée, apeurée. Nous nous sentons victimes de nos émotions, nous les subissons. En décidant d'être conscients, nous pouvons utiliser ces émotions pour ce qu'elles sont, des radars qui nous alertent que nous avons des choses à travailler. Encore des choses à travailler.
Youpi!
Toujours des choses à
travailler. On ne savait plus quoi faire.
Exactement. Au lieu de subir ces émotions, on va utiliser ces radars pour redevenir conscient et écoper. Si je me mets en colère, c'est que j'ai encore une piscine de colère à l'intérieur de moi. Je résonne à ce qui vibre autour de moi. Personne n'a le pouvoir de rentrer en moi et de me mettre en colère. Donc c'est ma responsabilité finalement. Au début, c'est fastidieux et ça peut sembler très long, comme pour le rameur, le surfeur qui rame. Mais plus on le fait, plus ça va vite et plus c'est simple. Quand même la bonne nouvelle.
Oui.
La première des choses que je conseille aux gens qui viennent me voir et que j'ai expérimenté moi-même, c'est de se donner un rendez-vous à soi-même tous les jours. Pour cela, c'est lancer son GPS interne le matin vers une intention. En disant, aujourd'hui je lâche mes vieilles habitudes d'eux et aujourd'hui je m'ouvre à plus d'eux.
D'accord, alors tu peux peut-être nous montrer, on va le faire ensemble.
On peut le faire ensemble. Alors, on va tapoter sur le point karaté. Aujourd'hui, je lâche mes vieilles habitudes de me mettre en colère.
Aujourd'hui, je lâche mes vieilles habitudes de me mettre en colère.
Sur le point en haut de la tête, aujourd'hui, je lâche mes vieilles habitudes de juger les autres.
Aujourd'hui, je lâche mes vieilles habitudes de juger les autres.
Sur le point au bord de l'œil et au coin du nez, aujourd'hui, je lâche mes vieilles habitudes de me juger.
Aujourd'hui, je lâche mes vieilles habitudes de me juger.
Sur le bord externe de l'œil, aujourd'hui, je lâche mes vieilles habitudes d'avoir peur.
Aujourd'hui, je lâche mes vieilles habitudes d'avoir peur.
Sous l'œil, aujourd'hui, je lâche mes vieilles habitudes de m'énerver pour pas grand-chose.
Aujourd'hui, je lâche mes vieilles habitudes de m'énerver pour pas grand-chose.
Au-dessus et au-dessous de la bouche, aujourd'hui, je lâche mes vieilles habitudes de râler.
Aujourd'hui, je lâche mes vieilles habitudes de râler.
Sous la clavicule, aujourd'hui, je lâche mes vieilles habitudes de donner mon pouvoir au regard des autres.
Aujourd'hui, je lâche mes vieilles habitudes de donner mon pouvoir au regard des autres.
Sous les seins, aujourd'hui, je lâche mes vieilles habitudes de vouloir contrôler les autres.
Aujourd'hui, je lâche mes vieilles habitudes de vouloir contrôler les autres.
Et sous le bras, aujourd'hui, je lâche mes vieilles habitudes de procrastiner, de remettre à demain.
Aujourd'hui, je lâche mes vieilles habitudes de procrastiner et de remettre à demain.
Alors, comme on vient de le faire, on peut faire des choses différentes, des intentions différentes, une par point, ou alors la même, si on a vraiment une idée en tête, on peut la faire sur tous les points.
Oui, on peut le faire en général ou de façon plus ciblée.
Voilà, de façon plus ciblée.
Pour le problème.
Donc ça c'est la phase négative et donc lancer ensuite son GPS sur quelque chose de positif. Donc on va recommencer sur le point karaté.
Mm-hmm.
Aujourd'hui je m'ouvre à plus de calme. En haut de la tête, aujourd'hui je m'ouvre à plus de détente.
Aujourd'hui je m'ouvre à plus de détente.
Sur le coin de l'œil et le bord du nez, aujourd'hui je m'ouvre à plus de joie.
Aujourd'hui je m'ouvre à plus de joie.
Sur le coin de l'œil, aujourd'hui je m'ouvre à plus de paix.
Aujourd'hui je m'ouvre à plus de paix.
Sous l'œil. Aujourd'hui je m'ouvre à plus de gratitude pour ce que j'ai.
Aujourd'hui je m'ouvre à plus de gratitude pour ce que j'ai.
Au-dessus et au-dessous de la bouche, aujourd'hui je m'ouvre à plus d'amour.
Aujourd'hui je m'ouvre à plus d'amour.
Sous la clavicule, aujourd'hui je m'ouvre à plus de sérénité.
Aujourd'hui, je m'ouvre à plus de sérénité.
Sous les seins, aujourd'hui, je m'ouvre à plus de conscience.
Aujourd'hui, je m'ouvre à plus de conscience.
Sous les bras, aujourd'hui, je m'ouvre à plus de confiance en moi et en la vie.
Aujourd'hui, je m'ouvre à plus de confiance en moi et en la vie.
Qu'est-ce que tu en penses, Maria?
Ah ben moi, je suis pour. Hein. C'est super. Et c'est vrai que ça prend une minute ou deux de faire ça tous les matins. Oui. Forcément, ça permet de passer une meilleure journée.
Ça permet de passer une meilleure journée, exactement. Et c'est vraiment un rendez-vous avec soi-même.
Mmh.
On peut aussi se donner rendez-vous le soir et se demander quelles sont les 5 choses les plus positives qu'on a vécues dans notre journée. Ce qui permet, et on va le voir plus tard, de prendre conscience des moments positifs. C'est super important. Au début, d'avoir déjà ces moments de connexion interne, ça justifie la journée et ça nous permet de voir que c'est possible. On commence à lever le voile. Ensuite, ça s'appelle une deuxième phase ou alors en même temps, on peut le plus souvent possible dans la journée se demander comment je me sens. Ça permet de redevenir conscient et responsable de sa vie. On peut au départ se mettre des post-it, parce que le plus dur, c'est de se poser la question, c'est d'y penser. Comment est-ce que je me sens? Donc, moi, je sais que je me mettais des post-it sur mon agenda, sur notre réfrigérateur. Au bout d'un moment, on ne voit plus les post-it, mais on a intégré la question. Et on peut changer le post-it. La question sans le post-it. Donc, comment je me sens? Si on peut répondre, je me sens bien, ça arrive, quand même. Il faut tapoter sur ce ressenti. L'idée, c'est de câbler ce ressenti positif à l'intérieur de nous. Christophe André, psychiatre qui introduit la méditation à Sainte-Anne, explique bien que nous sommes câblés pour le négatif. Personne n'a besoin d'apprendre à être triste, à se mettre en colère ou à avoir peur. C'est tout se faire. Et d'ailleurs, dans une journée, quand on a cinq remarques positives et une remarque négative, une seule critique, on va se rappeler que la critique. Mais parfois, nous rappelle-t-il, le bonheur traverse nos vies. Et si vous prenez conscience, si vous en prenez conscience et vous le savourez, autrement dit, si vous vous rendez présent à cet instant, vous le transformez en un sentiment de bonheur beaucoup plus puissant, qui va laisser une trace profonde dans votre cerveau, où il se trouvera câblé, fixé, enregistré quelque part dans vos réseaux synaptiques. Ce serait vraiment dommage de pas le faire.
Bien sûr.
Je vous encourage donc à tapoter exactement ce que vous ressentez. Parce que chacun a sa sensation de bien-être. Ça peut être « je me sens bien »,« je suis heureux »,« j'ai le cœur ouvert »,« je me sens sereine ». Et bien sûr, « j'ai confiance en moi et en la vie ». Pour en prendre conscience et le vivre plus intensément.
Oui, parce que le fait de faire les tapotements en même temps, ça nous fait passer en cerveau droit, on est en état alpha et ça imprime
et ça
encore plus cette conscience positive.
Exactement. Si je me sens mal, l'idée est premièrement d'identifier précisément ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire « je me sens mal » ?« Je me sens mal », c'est trop vague. Identifier ensuite la peur sous-jacente. Et voir que là, maintenant, elle n'est pas réelle, elle n'est pas présente. Et décider, juste pour maintenant, de donner son pouvoir à la peur ou à la confiance. Donc moi, je vous suggère la confiance.
Oui, on va tendre vers cette solution-là.
Prendre conscience que c'est un choix, une décision à qui je donne mon pouvoir. Mon mental, avec toutes ses croyances négatives, ou ma confiance. Même si au départ, c'est une notion floue, comme un vague souvenir. Je vais vous donner un exemple, et ensuite on pourra le faire ensemble. Alors, on va prendre l'exemple d'une culpabilité. Annie vient de me voir un jour avec une émotion impossible à dissimuler, parce que c'était aujourd'hui l'anniversaire de l'interruption de grossesse qu'elle avait vécue, et que c'est très très dur. Ce qui restait si vif 20 ans après. C'était, me dit-elle, la culpabilité d'avoir mis fin à la vie de son enfant. Elle aurait voulu le garder, mais pas son mari. Lui-même, ayant perdu ses parents très jeunes, ne pouvait pas imaginer avoir des enfants. La responsabilité était intolérable. Le choix d'Annie se résumait ainsi. Soit je garde cet enfant, et je suis à la rue, sans les moyens de l'élever et sans père. Soit je ne le garde pas, et je peux rester avec mon mari. La première des choses était qu'elle réalise à quel point, à cette époque-là, elle n'avait vraiment pas le choix, et qu'elle avait pris la seule décision possible. On a donc commencé par faire la paix avec cette partie d'elle-même. Je lui ai demandé si elle voulait se punir encore longtemps. Parce que culpabiliser, c'est vouloir se punir. Donc on peut décider 1 an, 2 ans, 1 mois, 1 jour. Généralement, quand on culpabilise, on s'est suffisamment puni. Puis donner un sens à cette expérience. Pour celle-ci, nous avons beaucoup parlé du sens, et beaucoup tapoté aussi, qu'elle donnait à la vie et à la mort, du sens qu'elle voulait, pouvait donner à cette expérience. Imaginez la vie qu'elle aurait eue avec cet enfant et comment elle n'aurait sans doute pas pu subvenir à ses besoins. Mais aussi, nous avons identifié la peur sous-jacente. Ici, c'était la peur de son jugement. La peur du jugement de ce bébé envers elle et le jugement des autres. Pouvait-elle se pardonner? Si elle était sa meilleure amie, que se dirait-elle? Donc, quand même plus souvent son pire ennemi, son pire juge, que son meilleur ami. Serait-elle pardonnable? Pouvait-elle aussi pardonner à son mari? Parce que pour elle-même être bien. Parce que finalement, quand on pardonne, beaucoup de gens pensent que le pardon c'est impossible, parce qu'ils ne veulent pas oublier, ils ne veulent pas accepter ce qui s'est passé. Mais ne pas pardonner, c'est garder bien au chaud à l'intérieur de soi une déception, une colère, une tristesse, et donc au final, c'est se faire du mal à soi-même. Pardonner, c'est se libérer, et c'est se faire du bien à soi en premier. Donc pouvait-elle pardonner à son mari pour elle-même être bien? Après s'être appuyée sur le sens qu'elle donnait à la vie, à cette expérience, elle a enfin pu lâcher cette culpabilité et retrouver sa confiance. Sans émotion, disait Carl Gustav Jung, il est impossible de transformer les ténèbres en lumière et l'apathie en mouvement. Si vous le voulez bien, on va tous le faire ensemble maintenant. Comme vous venez de voir dans une séance, et là je voulais résumer évidemment, on va ouvrir une boîte de Pandore, on va tirer des ficelles, ça part parfois un peu dans tous les sens, donc une idée motrice et directrice. Là, ça va être un peu plus synthétique évidemment. D'abord, je tiens quand même à préciser effectivement que l'EFT fonctionne mieux quand on est très précis. Donc je vais vous demander de choisir une petite émotion. Vous êtes nombreux à nous écouter et pour une émotion plus forte, il vaut mieux être en tête à tête avec un thérapeute qui va pouvoir mieux vous encadrer. Ou si vous avez vraiment l'expérience de l'EFT, avoir le temps d'aller jusqu'au bout de votre boîte de Pandore personnelle tout seul. Je vais faire la séance avec Maria, tout en vous expliquant et en étant global. Et comme dans les groupes de VFT, je vais demander à tous ceux qui nous écoutent et qui ont choisi une petite émotion de l'écrire sur un papier. On va le faire en bénéfice partagé. Donc vous allez prendre une grande respiration et trouver donc cette émotion, l'écrire et en mesurer l'intensité entre 0 et 10. 0, vous n'avez pas d'émotion. Très bien. Parfait.
Trouvez-en une autre.
Et voilà, pourquoi pas. Si jamais il y a des gens qui sont vraiment très 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 bien.
Oui.
Et dans ce cas-là, c'est très bien. Et 10, elle est vraiment très forte et vous ne m'avez pas écouté. Voilà. Vous allez vous lever, placer ce papier sur votre chaise et commencer par vous asseoir dessus. S'asseoir sur son problème, c'est déjà une première étape.
Ça donne une bonne assise.
Voilà. Ouais. Ça donne un peu de recul. Votre GPS interne est lancé sur votre émotion maintenant. Donc vous pouvez faire la séance avec les mots de Maria et vous aurez des bénéfices partagés pour votre émotion à vous. Dans les groupes, c'est toujours spectaculaire de voir l'intensité de presque tout le monde diminuer alors qu'on a travaillé sur une seule personne. Là, nous avons un grand groupe virtuel, donc on va voir ce que ça nous apporte.
Oui, belle énergie.
Donc vous allez vous asseoir confortablement, fermer les yeux. Et moi, j'ai demandé à Maria, comment te sens-tu? Et peux-tu identifier précisément comment tu te sens?
Mais globalement, en ce moment, je me sens très bien, portée par la grande énergie de ce projet. Mais si je cherche bien, je peux trouver une petite tristesse, une petite appréhension, parce que bientôt, dans quelques jours, ça va se terminer. Et ça, c'est toujours un moment très difficile pour moi.
D'accord, c'est une petite tristesse, une petite appréhension.
Oui.
Est-ce qu'il y a un endroit dans ton corps où tu la sens plus particulièrement?
Mais dans la poitrine, dans la zone du cœur.
La zone du cœur, d'accord. Alors, on va tapoter là-dessus.
Tapotons.
Même si j'ai une petite tristesse?
Même si j'ai une petite tristesse.
Une petite appréhension.
Une petite appréhension. Je la sens comme une pression au niveau de la zone du cœur, de la poitrine.
Au niveau de la zone du cœur. De la poitrine. Je m'aime.
Je m'aime.
Même si. J'ai une petite tristesse. Une petite appréhension. Parce que, comme tu me l'as dit, toute cette belle expérience, toute cette belle énergie va bientôt s'achever.
Oui, toute cette belle aventure va bientôt arriver à sa fin.
Et que je sens une pression au niveau de la zone du cœur.
Et ça m'écrit comme une pression dans la zone du cœur.
Je m'aime.
Je m'aime.
Même si.
Même si.
Je sens une tristesse.
Je ressens une tristesse.
Une appréhension.
Une appréhension.
Parce que cette belle aventure va bientôt se terminer.
Parce que cette belle aventure va bientôt se terminer.
Et que ça me fait une pression au niveau de la zone du cœur.
Et que ça me crée une pression au niveau de la zone du cœur.
Je m'aime.
Je m'aime.
Je sens une légère tristesse. Ça, c'est le point en haut de la tête.
Je sens une légère tristesse.
Au niveau du coin de l'œil et du bord du nez. Une légère appréhension.
Une légère appréhension.
Sur le coin de l'œil. Cette belle aventure qui va bientôt se terminer.
Cette belle aventure qui va bientôt se terminer.
Sous l'œil, ça me crée une pression au niveau de la zone du cœur.
Ça me crée une pression au niveau de la zone du cœur.
Au-dessus et au-dessous de la bouche. Une légère tristesse.
Une légère tristesse.
Sous la clavicule, une légère appréhension.
Une légère appréhension.
Sous les seins, cette belle aventure qui va bientôt se terminer.
Cette belle aventure qui va bientôt se terminer.
Sous le bras, ça me crée une pression au niveau de la zone du cœur.
Ça me crée une pression au niveau de la zone du cœur.
Respirez. Et la première des choses, c'est de comprendre que nous ne sommes pas notre émotion. L'émotion, elle passe. C'est comme une tempête dans un arbre. Et l'arbre ne prétend pas être la tempête. Nous prétendons être la colère, la tristesse ou la peur. C'est notre émotion à nous et on veut la garder.
Bien au chaud.
En tapotant comme on vient de le faire au moment où ce radar se déclenche et perçoit donc une situation qui nous fait réagir, la première ronde de EFT nous donne un recul, une respiration pour ne pas sombrer dans l'émotion et pour avoir le choix entre l'inconscient en pilotage automatique ou la confiance. Maria et vous tous, vous pouvez prendre une grande respiration. C'est important de respirer. Si. Et Maria, pourrais-tu trouver la peur qui se cache derrière ton émotion? Généralement, derrière, quelle que soit l'émotion négative, il y a toujours une peur sous-jacente, même si elle est légère, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas réussir, peur d'avoir besoin de l'autre. Mais cette peur n'est pas réelle maintenant.
Mais là, l'idée qui me vient, c'est plutôt la peur du vide.
D'accord. Peur du vide après?
Oui.
Donc ce vide n'est pas là maintenant?
Non, pour l'instant non, c'est vrai.
Alors on va tapoter. Sur le point karaté et trois fois, même si?
Même si.
J'ai peur du vide.
J'ai peur du vide.
Mais qui n'est pas là maintenant.
Mais qui n'est pas là maintenant.
Je m'aime.
Je m'aime.
Même si?
Même si.
J'ai peur du vide.
J'ai peur du vide.
Mais qui n'est pas là maintenant.
Mais qui n'est pas là maintenant.
Je m'aime.
Je m'aime.
Même si?
Même si.
J'ai peur du vide.
J'ai peur du vide.
Mais qui n'est pas là maintenant.
Mais qui n'est pas là maintenant.
Je m'aime.
Je m'aime.
Au-dessus de la tête? J'ai peur du vide.
J'ai peur du vide.
Sur le coin de l'œil et le bord du nez. Mais ce vide n'est pas là maintenant.
Mais ce vide n'est pas là maintenant.
Sur le coin de l'œil, j'ai peur du vide.
J'ai peur du vide.
Sous l'œil. Mais ce vide n'est pas là maintenant.
Mais ce vide n'est pas là maintenant.
Au-dessus et au-dessous de la bouche. J'ai peur du vide.
J'ai peur du vide.
Sous la clavicule. Mais ce vide n'est pas là maintenant.
Mais ce vide n'est pas là maintenant.
Sous le sein. J'ai peur du vide.
J'ai peur du vide.
Sous le bras. Mais ce vide n'est pas là maintenant.
Mais ce vide n'est pas là maintenant.
Maria et vous tous, vous pouvez prendre une grande respiration et vous demander comment je me sens maintenant.
Apaisée. La peur n'était pas très intense, mais il y en a encore moins.
D'accord. Donc il en reste une toute petite?
Non, je crois que c'est bon.
Je crois que c'est bon.
Oui.
D'accord.
Elle était à 4 avant l'exercice. Là, non, je la sens plus.
Tu la sens plus. Super. Génial. Et donc, si tu en avais resté un tout petit peu, c'est le moment où tu pouvais vraiment décider quel maître tu voulais vénérer, la peur ou la confiance. Comme une maman allume la lumière dans la chambre de son enfant apeuré par le noir, la lumière envahit la chambre et la peur disparaît. En utilisant vos croyances positives et la décision de choisir la confiance, vous pouvez allumer votre lumière interne et écoper chaque fois un peu plus cette piscine de peur qui nous sépare de notre océan de confiance. Donc là, par exemple, tu aurais pu dire que tu sais que tu es à ta place partout et que voilà, cette croyance aurait pu t'aider à allumer la lumière à l'intérieur. Mais c'est fait, donc c'est super. C'est qu'on a vraiment le choix et ça peut se faire en une décision. Je vais vous inviter tous maintenant à mesurer votre intensité, l'intensité que vous avez par rapport à votre émotion de départ, et à regarder votre papier et comparer. Il peut arriver que votre intensité augmente ou reste la même. C'est rare, mais tout va bien.
D'accord.
C'est que cette émotion a besoin d'être travaillée de façon plus approfondie. Tout ce qui aura été lâché pendant ces rondes est acquis. Je vous invite à prendre contact avec un thérapeute ou à retravailler seul cette émotion si vous avez un peu d'expérience avec l'EFT. Dans la plupart des cas, vous allez remarquer que votre intensité aura baissé.
Selon ton expérience, Agnès, en quoi l'EFT est particulièrement efficace pour écouper ces émotions qui ont tendance à se présenter et se représenter?
Et à revenir encore. Alors justement, l'EFT appartient à la famille des thérapies psycho-énergétiques, c'est-à-dire qui allie le corps et l'esprit. Donc il se passe deux choses, on tapote et on parle. En tapotant sur les points d'acupuncture, il se passe encore deux choses, nous descendons en onde cérébrale plus basse et nous passons en cerveau droit. Et nous tapotons sur le début et la fin de tous les méridiens d'acupuncture. Nous faisons donc une harmonisation de tous les organes et de toutes les émotions. Et grâce aux mots employés, nous lançons notre GPS interne sur ce que nous souhaitons viser, une situation, une façon de réagir. Or, notre inconscience qui s'est développée entre 0 et 6 ans, en gobant littéralement le monde autour de lui, un bébé humain se comporte comme ceci ou fait cela, se programmant en imitant les adultes référents autour de lui, son père et sa mère. En tapotant, on redescend dans les niveaux d'ondes dans lesquels nous nous sommes programmés. Nous pouvons donc effacer et enregistrer un nouveau programme. C'est ça qui est vraiment très très efficace, et c'est pour ça que c'est un super outil pour reprendre le pilotage conscient de notre vie et écoper nos anciennes façons de réagir qui étaient parfaites pour nous permettre de survivre et de nous adapter en tant qu'enfant, mais qui nous coupent de nous-mêmes en tant qu'adultes. En tapotant sur une émotion, ce radar qui nous alerte d'une situation, dès qu'elle se présente, nous pouvons retrouver la respiration nécessaire, la distance, redevenir conscient et choisir. À la fin d'une séquence de EFT, on nous demande de faire un choix. C'est-à-dire qu'on va tapoter sur le négatif, on enlève tout le négatif, et à la fin, on décide de faire un choix, d'orienter notre réaction. C'est le moment de choisir entre la peur et la confiance, entre la survie et la vie. La notion de choix est donc très importante en EFT. Se demandant le plus souvent possible comment je me sens, nous allons donc écoper ce qui nous empêche de ressentir cette confiance. Nous allons ramer comme le surfeur et corriger notre posture, lâcher nos peurs.
Mais le mental, est-ce qu'il va se laisser faire?
Pas vraiment. Le mental, c'est comme la vague qui veut ramener le surfeur à la rive.
Mais oui.
Il lutte, il a peur de perdre quelque chose s'il ne pilote plus notre vie. Et puis le pire, c'est qu'il veut nous aider. Et comme on a vu, il n'a pas les bons outils pour le faire. Il va donc tout mettre en œuvre pour nous ramener à la rive. La peur est notre plus vieille compagne, et quand nous marchons main dans la main avec cette menteuse, nous devenons notre pire ennemi, écrivait Thierry Janssen dans « Vivre en paix ». Quand nous décidons de reprendre le pilotage conscient de notre vie, et que nous décidons de nous reconnecter à nous-mêmes, nos freins se manifestent encore plus violemment. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a tout compris qu'on va y arriver. Bien au contraire. Et là, il y a tout un tas de freins qui viennent, tous les rouages de notre mental vont se mettre en œuvre pour nous freiner et pour nous barrer le chemin et nous ramener à la rive. Ce que je rencontre le plus fréquemment en séance, c'est notre identification à notre mental, les bénéfices secondaires d'une situation, les croyances négatives, notre volonté de tout contrôler ou d'abandonner, notre volonté de fusion ou de séparation, nos attentes envers l'autre, notre envie d'être le gagnant dans une situation. Tout donner à l'autre, se placer en dernier de la liste, en attendant de recevoir de l'amour et de la reconnaissance en retour. Être notre pire juge, c'est terrible. Ne pas pouvoir pardonner, comme on l'a vu tout à l'heure. ne pas savoir recevoir, procrastiner, faire le ménage ou la compta, plutôt que de s'occuper d'être dans le présent, ou fuir dans des activités. Je vais juste vous donner un exemple de ces freins. Linda est venue me voir pour perdre du poids, me disant qu'elle ne pourrait s'accepter que quand elle aurait retrouvé son poids d'il y a 10 ans. À la deuxième séance, elle me dit « si j'ai bien compris, je ne pourrais pas maigrir en faisant des régimes ». En d'autres termes, elle arrête de contrôler son poids. Mais du coup, je n'y crois plus. Traduction, elle abandonne. Un grand classique, passer du contrôle à l'abandon. Ce qui est la même énergie. Soutenu par « les autres y arrivent, mais moi, j'y arriverai pas ». Sa croyance négative. Nous avons donc identifié ses freins. Il y en avait d'autres, hein, mais bon, je l'ai fait courte. Et nous avons vu que l'opposé de la volonté de contrôle et d'abandon se trouve être la confiance, et notamment la confiance en elle et en la vie. En reconnectant cette confiance en elle, elle a commencé par s'accepter avec son poids, comprenant que celui-ci n'était qu'une manifestation de son non-amour pour elle et de ses peurs existentielles, et qu'elle prenait le problème à l'envers. Ce n'était pas en perdant du poids qu'elle aurait confiance en elle, mais au contraire, en reconnectant cette confiance en elle et en la vie, elle a commencé par se stabiliser, puis à perdre petit à petit, changeant complètement son rapport à la nourriture et surtout à elle-même.
Et pour toi, Agnès, quelle est ton expérience personnelle de l'EFT et le retour à la confiance?
Alors, quand j'ai rencontré l'EFT, par rapport à nos surfeurs, j'étais déjà dans l'eau. Froide.
Très froide.
Froide. Je ramais depuis longtemps dans une démarche de compréhension pour aller mieux. J'avais compris beaucoup de choses intellectuellement. J'avais compris, lu. Mais j'arrivais pas à ramer à contre-courant de la vague. Je vivais une période très difficile et pleine d'émotions puisque j'ai perdu mon mari d'une longue maladie à ce moment-là. Veuve avec 2 enfants, dont un très jeune vivant l'incompréhension et la colère. Mon premier contact avec l'EFT, que j'ai rencontré avec Louise la semaine de la mort de mon mari, c'était des rondes pour faire face à cette colère de mon fils sans y raisonner. Même si j'avais envie de hurler, je m'aime. Je tapotais. Et ça me permettait de trouver la distance, le recul, la respiration nécessaire pour ne pas surenchérir à sa colère. Ça, je savais bien faire. Mais j'ai pu, la plupart du temps, lui dire calmement qu'il avait le droit d'être en colère, mais que j'avais aussi le droit de ne pas me trouver face à celle-ci. Donc il allait tranquille. Il allait dans sa chambre, il exprimait sa colère dans sa chambre, et ensuite on s'est retrouvés. Les fois où je parvenais à ne pas me mettre en colère étaient pour moi les premières petites victoires. J'avais aussi adopté le rendez-vous avec moi-même tous les matins, et ces quelques secondes de bien-être, de reconnexion, donnaient un sens à ma journée. Bien sûr, j'avais des moments d'impatience, d'incompréhension et même de découragement de passer d'un bien-être profond en totale confiance à un chaos interne sans nom. Mais j'ai persévéré, utilisant les colères, les peurs, les tristesses, les colères, les peurs, les tristesses, les colères, comme mes outils, jusqu'à arriver de l'autre côté de la barre. La barre, pour les surfeurs, c'est là où la vague casse. De l'autre côté de la barre, c'est un espace plus calme où ils peuvent enfin se poser, profiter, s'asseoir sur leur planche et guetter la vague qu'ils vont choisir de surfer.
Alors justement, une fois que ce travail découpage est fait, et refait, et refait, et en tout cas suffisamment fait, comment faire pour glisser avec la vague? Comment retrouver l'unité et permettre à ce qui est d'être tout simplement? Il n'y a plus rien à faire?
Quand même pas. Le surfeur, à ce stade, il n'est pas juste allongé sur sa planche. Il observe la mer, il regarde et il est prêt à accueillir la vague qu'il va pouvoir surfer. Il est détendu. On sent quand on a passé cette barre, on le sait. On a confiance en soi la plus grande partie de la journée. Forcément toute la journée, mais la plus grande partie de la journée. Notre regard sur les situations change. On se sent détendu, confiant. On vit pleinement le présent. Il y a toujours un grand travail de fait. On est redevenu conscient. On ressent que cette confiance est là, qu'elle ne dépend pas du monde extérieur, mais de notre connexion à nous-mêmes et à la vie. Mais il reste à continuer de s'observer et à rectifier au fur et à mesure, comme le surfeur, même sur la vague qui glisse, rectifie sa moindre posture. Ça devient une pratique quotidienne d'accompagnement de ce qui est. Par exemple, si une colère se présente, nous pouvons instantanément nous rectifier et choisir entre la peur et la confiance, et même remercier l'élément extérieur, ou la personne, responsable de notre réaction, de nous avoir montré encore une zone à écoper.
Youpi, merci.
Mon fils, qui a bientôt 9 ans, reste mon plus grand maître spirituel, et je le remercie souvent pour ça. Il me montre tous les jours ce qu'il me reste à travailler et me permet d'écoper toujours un peu plus. Il a lui-même beaucoup changé et maintenant il aime le FT qu'il rejetait au début à mon plus grand désarroi. Donc souvent on finit par une grande séance collective de FT. Donc les vagues restent présentes, mais on les appréhende différemment. Vous ne pouvez pas arrêter les vagues, mais vous pouvez apprendre à surfer, comme disait Joseph Goldstein, professeur de méditation américain des années 70. Et le FT est très efficace pour cela. Le matin, on peut continuer les rondes de « aujourd'hui je lâche mes vieilles habitudes », de me sentir déconnecté, de donner mon pouvoir à l'extérieur. Aujourd'hui, je m'ouvre à plus de confiance en moi et en la vie, plus de reconnexion. Ça prend que 2 minutes, on l'a dit tout à l'heure, et c'est un vrai rendez-vous de pleine conscience et de choix pour la journée. Des chercheurs américains ont même prouvé que ces 2 rondes de FT pouvaient augmenter notre QI pour la journée. C'est vraiment dommage de s'en priver.
Oui.
Le soir, on peut lancer son GPS interne sur une intention pour la nuit, au moment où notre intention résout ce qui nous a touchés dans la journée. Ou pour le lendemain, par exemple, je choisis pour demain d'être connectée à la confiance en moi et en la vie. Et tout au long de la journée, on peut accompagner ce qui est et lui permettre d'être au mieux. Être conscient de ce qui se passe maintenant. Habiter notre présent. Si je sens une tension ou une peur, je peux décider de choisir la confiance. Même si je ressens une tension, en tapotant, une peur, je choisis la confiance. Ça peut se faire en une fraction de seconde. Et si je me sens bien, voire très bien, est-ce que je peux ne pas m'y accrocher, ne pas vouloir la garder? Notre essence est toujours là, nous ne pouvons pas la perdre. Dès que nous avons peur de la perdre ou que nous voulons l'accrocher, c'est le mental qui reprend le contrôle. Pouvons-nous réellement lâcher prise du mental pour permettre à notre essence d'être toujours là? C'est un peu comme vouloir photographier un coucher de soleil. Quand on photographie un coucher de soleil, on ne le regarde pas vraiment et la photo ne rendra pas la sensation qu'on aura ressentie à ce moment-là. Nous ne pouvons pas penser le bien-être et la confiance, nous pouvons enlever ce qui nous empêche de les ressentir. On peut aussi dans cette phase-là, vérifier quand nous décidons quelque chose, si cette décision est juste pour nous. Un nouveau travail, mais même dîner chez des amis. Cette décision est-elle juste pour moi? Changer les post-it, comment je me sens, hein? Cette décision est-elle juste pour moi? Si elle est juste pour moi, elle est généralement juste pour les autres. On peut renforcer nos croyances positives par nos lectures, nos discussions, nos intuitions. Quand nous allons mieux, c'est aussi et surtout le bon moment pour affiner nos croyances positives. On peut aussi, dans cette phase-là, soigner notre enfant intérieur. Ceci peut se faire dans la phase précédente également. Tout en tapotant, quand j'ai une émotion qui apparaît, je peux me demander quand est-ce que je l'ai ressentie la première fois quand j'étais petite. Laissez venir cette image et tapoter sur la scène. Est-ce que, moi adulte, je peux entrer dans cette scène et consoler l'enfant? Qu'est-ce que je peux faire pour cet enfant qui est là? Est-ce que je pourrais même lui donner des clés et lui expliquer que finalement, même s'il a vécu cette émotion, cet enfant, il va s'en sortir et il va devenir l'adulte génial que je suis maintenant. C'est ce que je dis à mes patients, hein, c'est pas ce que je me dis à moi-même. Donc, qu'est-ce qu'il aurait eu besoin d'entendre, cet enfant? Et quand cet enfant va mieux, qu'il sourit, vous pouvez le faire rentrer en vous. Vous réunifiez avec cette partie de vous qui souffrait et qui va mieux. Dans cette phase, tout semble plus facile. Il peut y avoir une tempête, mais nous savons que les ressources sont en nous, dans ce lien de confiance entre nous et la vie. Comme le surfeur va glisser avec la vague, il a confiance en lui et en la vague, faisant un avec la nature. Il accueille tout ce qui se présente. Notre travail intérieur nous permet de vibrer ce que nous souhaitons manifester et de l'attirer. Dès le moment où on s'engage catégoriquement, la providence agit elle aussi, exprimait Goethe. Un exemple tout récent d'une amie qui a beaucoup pratiqué l'EFT depuis 2009 illustre cette phase. Depuis 6 ans et demi, Caroline est en procédure de divorce pour violence conjugale. Son mari a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Début 2012, le juge prononce le divorce au tort exclusif de son mari, qui fait appel. En avril 2013, donc bien récent, le juge prononce le divorce au tort partagé, sous prétexte que le mari est dans une situation financière dramatique. Quand elle lit le jugement, Caroline a l'impression que la violence conjugale n'est pas reconnue, voire banalisée, et ressent une immense colère contre la justice. Puis très vite se rend compte que sa colère se trompe de cible. C'est contre son mari qu'elle devrait la diriger. Et là, elle se laisse envahir par une colère jamais éprouvée envers cet homme. C'est à ce moment-là que ces torts partagés, ressentis comme injustes, prennent tout leur sens. Ce jugement lui a permis d'éprouver enfin de la colère contre cet homme, et elle s'en rend compte immédiatement de couper le dernier lien, même ténu, qui la relie encore à lui. Elle sait maintenant qu'elle ne laissera plus aucun homme lui faire de mal et qu'elle a confiance en elle et en la vie. Pour elle, tout est parfait et tout a un sens. Et pour moi, ça incarne vraiment la citation de Wendy Dyer que je vous ai déjà citée au début. Lorsque vous modifiez la façon dont vous regardez les choses que vous regardez changent. Ou encore, comme disait Elisabeth Kubler-Ross, il n'y a pas d'erreur, pas de coïncidence. Tous les événements sont des bénédictions qui nous sont données pour que nous apprenions. Le monde extérieur ne change pas, mais notre réaction, oui, nos émotions sont toujours là, mais ne nous débordent plus, nous ne sommes plus identifiés à elles, la paix et la joie sont toujours présentes.
Quelques mots pour conclure, Agnès.
Alors pour conclure, si on n'a pas bien compris jusqu'à présent, l'idée c'est de décider. Décider pour permettre. Décider de donner un sens à sa vie. Décider de redevenir conscient et décoper pour permettre à ce qui est d'être, à notre confiance, de prendre toute sa place. Plus nous pouvons permettre à ce qui est d'être comme il est, plus c'est simple et plus nous retrouvons notre joie d'enfant et le goût de vivre pleinement le présent. Laisser notre essence être, c'est être en équilibre, ouvert, permettre à l'énergie de circuler librement en nous. Et n'est-ce pas là la clé de l'harmonie et de la santé? Nous sommes reconnectés à nous-mêmes dans cette confiance en nous et en la vie, en contact avec notre essence, notre unité, notre amour. Cette unité et cet amour, loin de nous recroqueviller sur nous-mêmes, nous permettent de nous réouvrir et de faire confiance aux autres. La confiance en soi est le premier secret du succès, disait Ralph Waldo Emerson, philosophe et poète américain du 19e siècle. Mais surtout, surtout, ne vous contentez pas de croire ce que je viens de vous dire, mais expérimentez-le. À vous de jouer et de vous jeter à l'eau.
On va ouvrir les chats pour que les gens posent les questions à Agnès ce soir. Merci, merci pour tout ce que tu as partagé. Merci pour tes merveilleuses pistes pour le retour vers la confiance.